Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue pour ce cinérama du mercredi 13 octobre. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors si vous nous avez écoutés déjà depuis le début de cette saison, eh bien nous serons maintenant que tous les deux, sauf exception. Et puis eh bien l'émission Cinérama ne dure que une demi-heure, alors qu'auparavant eh bien c'était une heure de cinéma.
Voilà, c'est un cinérama plus concentré, plus dynamique, moins de blabla.
Et on va le prouver puisque eh bien cette fois-ci. Alors moi je vais commencer par mon sommaire. Alors la semaine dernière je devais déjà vous diffuser une interview de Mariana Otero, la réalisatrice du documentaire Entre nos mains, qui sera encore projetée pendant deux semaines au Diagonale. Donc cette fois-ci, j'ai bien l'interview avec ma besace. Et puis toi, eh bien, t'as pas chômé, hein, trois films.
Oui, voilà. Bah, la semaine dernière, il y a eu pas mal de sorties en salle. Donc je suis allé voir trois films. Je vais commencer par vous parler de Kaboom, le dernier film de Greg Araki. J'enchaînerai sur le nouveau Woody Allen. Et pour finir, si on a encore un peu de temps, je vous parlerai d'un film d'animation donc, qui est sorti aussi mercredi dernier, qui s'appelle Moi, moche et méchant.
Et qui est produit par Universal, qui va sur les traces de Pixar. Hein, et...
Voilà, c'est, en fait, c'est un transfuge de Blue Sky, le studio qui avait signé L'Âge de Glace 1, 2, 3, etc., qui a créé une section animation à Universal. C'est leur première production de ce nouveau studio Illumination Entertainment. Donc voilà, ça, ce sera en toute fin d'émission, mais on va commencer tout de suite avec Greg Araki. Alors jeudi dernier, certaines personnes ont dû un peu froncer les sourcils en découvrant la une de Libération. En couverture du journal s'étalait une photographie de Larry Clark, le célèbre photographe et cinéaste, dont l'œuvre est actuellement exposée au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Sur cette photo, deux adolescents allongés sur un canapé qui s'embrassent en se caressant. De quoi faire frémir les plus prudes d'entre nous et adresser un joli pied de nez à l'excellente stratégie de communication de la mairie de Paris qui a interdit aux mineurs cette exposition histoire de faire venir un maximum de monde. Alors nous n'allons pas parler aujourd'hui de la filmographie de Larry Clark, hein, même si elle mériterait qu'on y consacre un dossier un de ces jours. Non, aujourd'hui on va s'intéresser à un autre artiste qui explore les mystères de l'adolescence, de la sexualité et de la drogue. J'ai nommé Greg Araki. Donc voilà, mercredi dernier sortait dans les salles Kaboom, le 10e long métrage du réalisateur. Et ce film nous embarque dans une université américaine, tout droit sortie d'un livre de Bret Easton Ellis, un lieu impersonnel au design kitsch et bariolé, où l'activité principale ne semble pas consister à s'élever intellectuellement, mais plutôt à s'envoyer en l'air le plus possible. Donc Smith est un jeune homme qui passe son temps à traîner en compagnie de sa meilleure amie lesbienne, Stella, à prendre son pied avec la blonde London et à fantasmer sur son colocataire Thor, un surfeur aussi bodybuildé que stupide. Donc tout va pour le mieux dans la vie de Smith jusqu'à ce qu'une série de cauchemars vienne mettre la pagaille dans son existence dorée de sexe et de défonce. Petit à petit, les rêves prennent le pas sur la réalité. Et son univers se transforme en un drôle de thriller peuplé de tueurs qui portent des masques d'animaux, de sorcières hystériques, disciples de Sappho et de menaces d'apocalypse nucléaire. Voilà, vous l'aurez compris, Kaboom n'est pas vraiment un film à recommander aux fans de René Lataupe. Greg Araki revient à ses sujets de prédilection en injectant une bonne dose d'absurdité dans son histoire de jeune cool et branché. Les personnages sont traités comme des caricatures et ils peuplent cette université fantasmée avec une distance qui ajoute au côté conte trash de l'ensemble. Araki opère une sorte de fusion entre l'univers de Richard Kelly et celui de John Waters. Donc au réalisateur de Denis Darko, il emprunte la distorsion de la réalité, les masques d'animaux, la fin du monde et la narration bordélique qu'on trouvait dans Southland Tales par exemple. Et au pape du mauvais goût, John Waters, il emprunte le mauvais goût bien sûr, le psychédélisme, le mélange des genres et un humour potache qui touche souvent juste. Donc voilà, dans l'univers hallucinogène de Kaboom, les comédiens s'en donnent à cœur joie, jouant de leur statut de fantasme sur pattes avec un second degré bienvenu. Thomas Dekker vient prendre la relève de James Duval, qui était l'égérie d'Araki dans sa trilogie Totally Fucked Up, The Doom Generation et Nowhere. Et Thomas Dekker est plutôt à l'aise dans la peau du paumé mais sexy Smith. Et ses partenaires féminines, aussi différentes soient-elles, sont toutes les trois excellentes. Alors Juno Temple en vamp esquinté mais hypnotique, Roxane Mesquida en sorcière monstrueusement possessive, et Halle Bennett en meilleure amie dépassée par sa relation tumultueuse avec la précédente. Donc voilà, Kaboom s'avère être une comédie plutôt réjouissante, plutôt jubilatoire, un périple sous psychotrope où les corps se mélangent et où la folie n'est jamais très loin. Donc une sympathique surprise qui s'avère quand même moins marquante que certains autres films du réalisateur, comme ceux de la trilogie dont j'ai parlé, qui, eh bien, pour être plus sombre, proposait quand même une critique sociale de l'Amérique un peu plus aboutie. Donc voilà, de toute façon, comme nous autres pervers provinciaux n'aurons pas droit à l'expo Larry Clark, et que Alexandre Cabanel au musée Fabre, ce n'est quand même pas très émoustillant. Voilà, si vous voulez voir des jeunes gens en train de s'ébattre dans la joie et la bonne humeur, vous n'avez plus qu'à aller voir Kaboom.
Donc, qui est projeté au cinéma Diagonal et quasi exclusivement.
Hein, oui, je pense que voilà, vous pourrez le voir en VO au Diago, c'est sûr. Après, je ne sais pas s'il est projeté en VF ailleurs.
Non. A priori, non.
Donc voilà pour Kaboom de Greg Araki que je vous recommande. C'est léger, c'est assez marrant. Voilà, c'est pas non plus un film inoubliable. Alors on va passer maintenant de la jeunesse au troisième âge avec le nouveau film de Woody Allen au titre interminable. Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu et vous ennuyer ferme dans une belle et sombre salle de cinéma. Voilà. Alors ça c'est le titre français. Vous l'aurez compris, je ne vais pas vous dire que du bien du dernier opus de l'infatigable réalisateur qui nous propose depuis quelque temps un film et demi par an. Woody Allen revient donc sur nos écrans après Whatever Works, qui était sorti en novembre 2009. Et il nous propose cette fois-ci un film choral qui s'articule autour d'une famille chahutée sur deux générations par le démon de midi. Alors les deux parents, Alfie et Elena, la soixantaine bien tassée, viennent de se séparer, le mari ayant décidé un beau jour qu'il était temps d'avoir peur de la mort et que sa vie ne lui convenait plus. Donc notre brave Pépé, incarné par l'excellent Anthony Hopkins, part donc courir le guilledou tandis que son épouse se noie dans l'alcool auprès d'une diseuse de bonne aventure qui profite de la situation pour vampiriser le portefeuille et le cerveau de la délaissée. Pendant ce temps-là, leur fille Sally voit son propre couple partir à volo. Son écrivain de mari n'arrive plus à pondre quelque chose de correct et s'entiche de la voisine d'en face qui est sur le point de se marier. Donc abandonnée par son époux, assiégée par sa mère qu'elle voit petit à petit sombrer dans l'alcoolisme et dans la superstition débile, Sally rêve de refaire sa vie avec son patron qui, lui aussi, a quelques problèmes matrimoniaux. Bref, donc Woody Allen nous entraîne dans un tourbillon d'histoires sentimentales qui fleure bon le vaudeville des familles. Il a choisi Londres pour cette nouvelle comédie, mais finalement tout ça pourrait aussi bien se dérouler à New York ou ailleurs, la capitale anglaise n'apportant qu'un cachet un peu plus bourgeois à cette histoire. Du côté des bons points à accorder au film, saluons comme il se doit le casting. Les comédiens sont tous excellents, bien dirigés, avec une mention spéciale pour Anthony Hopkins, plutôt à contre-emploi dans le rôle de cet homme âgé qui plaque tout pour recommencer sa vie avec une call girl. Les dialogues sont bien tournés, comme à chaque fois que Woody Allen prend la plume, et l'ensemble fonctionne comme une mécanique bien huilée. Et pour cause, ça fait des années que le réalisateur traite de façon exhaustive les mêmes sujets de la même façon, ce qui, soit dit en passant, est une des raisons de son succès auprès d'un public d'habitués. Alors malheureusement, toutes ces qualités sont ici mises au service de rien. Le plus gros problème de ce film tient dans son absence d'ambition. Woody Allen nous raconte une histoire banale à pleurer et les chassés croisés entre conjoints lassent rapidement le spectateur, tellement la partition est prévisible. La mise en scène est d'une platitude assez frappante et la majeure partie du film ressemble à du théâtre filmé, où en fait Woody Allen fait du Woody Allen sans trop se fatiguer. On a vite l'impression de se retrouver devant un épisode de sitcom un peu trop long. Pour le coup, la mécanique est peut-être un peu trop bien huilée, au point qu'on attend avec impatience le petit grain de sable qui viendrait gripper cette comédie au sujet éculé. Mais le film déroule son récit comme un rouleau compresseur, écrasant tout espoir d'originalité sous un canevas aussi bien rodé que méchamment daté. Voilà, seules quelques rares scènes parviennent à sortir le spectateur de sa torpeur, comme ce beau moment de silence entre Antonio Banderas et Naomi Watts, de retour d'un concert qui n'arrive ni à se dire au revoir, ni à se déclarer leur flamme, et qui font mourir dans l'œuf leur idylle naissante. Voilà donc, un Woody Allen bien décevant, à mon avis, qui aurait sans doute gagné à être un peu plus noir qu'il ne l'est déjà. Vivement que le réalisateur nous revienne en pleine forme avec un film de la trempe de Matchpoint.
Oui, mais ce sera peut-être pas le cas de son prochain avec Carla Bruni en,
oui,
en boulangère.
Je me suis pas...
Enfin, pas en boulangère, mais en,
en cliente de
en porteuse de pain, oui.
Non, je me suis pas renseigné sur le prochain Woody Allen. J'espère que ce sera d'un un peu plus... d'un meilleur niveau, disons, que celui-là. Non, celui-là m'a bien ennuyé. Et bon, il marche très bien. Il doit quand même plaire à un certain nombre d'habitués de la filmographie de Woody Allen.
Bah disons que j'avais vu, alors j'ai pas vu celui-ci, mais j'ai vu ces trois derniers. Effectivement, c'est souvent, comme tu dis, la même recette avec des dialogues ciselés, enfin plutôt bien fichus. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est le casting qu'il prend à mesure qu'il, qu'il prend de l'âge. Là, on voit Naomi Watts, Antonio Banderas. Enfin voilà, c'est quand même des acteurs intéressants.
Oui, non, mais il y a toujours chez Woody Allen cette sorte d'honneur de jouer dans ses films. Et il y a énormément de grands comédiens qui ne demandent que ça, de jouer dans un Woody Allen. Après, c'est vrai qu'un bon casting ne fait pas forcément un bon film. Là, pour le coup, à mon avis, le scénario pêche un peu sur son manque d'originalité. Voilà. Après, les comédiens sont vraiment très bons. Hopkins est assez marrant. Et puis les autres aussi, Naomi Watts, Josh Brolin, qu'on voit un peu partout en ce moment.
Et en tout cas, Woody ne joue pas dedans.
Woody ne joue pas dedans.
Parce que ça aussi, il joue de moins en moins dans ses films, mais bien que ça lui arrive encore.
C'est vrai que oui, c'est dans Scoop, la dernière fois que je l'ai vu.
Me semble-t-il, oui. Eh bien, donc ça, c'est projeté aussi au Diagonal.
Au Diagonal, c'est projeté peut-être un peu partout, je pense, que ce soit en VO ou en VF. Vous pouvez le trouver dans tous les cinémas de la ville.
Alors, on passe à toute autre chose. J'avais déjà évoqué, enfin, j'avais même pris 5 minutes pour en parler, d'un documentaire qui s'appelle Entre nos mains, documentaire de Mariana Otero, qui est une habituée des documentaires. Alors, Mariana Otero est allée dans une usine qui s'appelle Starissima, une usine d'ailleurs qui n'existe plus, c'est une usine qui faisait de la lingerie. Elle est près d'Orléans. Et puis, c'était une usine donc en liquidation judiciaire. Il était question soit qu'elle coule vraiment, ou soit que les ouvriers, ouvrières majoritairement, reprennent cette entreprise pour en faire une SCOP, une société coopérative ouvrière de production, qui est une forme juridique bien particulière qui met chacun au centre des affaires. Voilà. Alors, on va écouter l'interview de Mariana Otero.
Alors, Mariana Otero, je suis réalisatrice et je réalise des films documentaires.
L'entreprise appartient à ses salariés. Ça, c'est la première règle de la coopérative. Les décisions se prennent selon la règle « une personne égale une voix ». Donc, à tout moment, ça sera vous, si vous créez une coopérative, qui resteront maîtres de l'avenir de leur entreprise.
C'est vrai, c'est une entreprise de lingerie féminine, donc ce sont surtout des femmes. Je n'ai pas choisi l'entreprise par rapport à ça, mais c'est vrai que quand j'ai fait le tour comme ça de quelques-unes et j'ai vu là beaucoup de femmes, c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée. En plus, c'est des femmes de cultures différentes. Il y a des Laotiennes, il y a une Congolaise, une femme d'agriculteur. Enfin, il y a des jeunes, des plus âgés. Bon, il y a quelques hommes, effectivement. L'ancien dirigeant, un délégué du personnel et celui qui aurait été le futur dirigeant. Enfin, principalement. Après, il y en a d'autres, mais on ne les voit pas, ceux-là.
Préciser justement le thème de votre documentaire. Si vous êtes allé dans cette entreprise, c'est parce que l'entreprise était en cessation de paiement et les salariés cherchaient à récupérer leur entreprise via une forme juridique qui s'appelle la SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production.
Tous les salariés deviennent les patrons, enfin ensemble, quoi, de leur entreprise. Le capital leur appartient et ils ont tous, quel que soit le capital qu'ils ont mis, une personne, une voix, c'est-à-dire qu'ils ont chacun le même poids au sein des décisions, au sein des assemblées générales. C'est eux qui élisent le dirigeant, c'est eux qui définissent en assemblée générale les orientations de l'entreprise. Et donc, ils ont leur entreprise et leur destin entre leurs mains. Ce qui change absolument le rapport au travail, le rapport aux collègues. Ça change tout, quoi. J'ai visité beaucoup d'entreprises pour faire le film, et de coopératives. Et certains me disaient, maintenant, je vais au travail comme je vais cultiver mon jardin. Ça veut tout dire, quoi.
Engage à verser à la SCOP l'équivalent d'au moins un mois de salaire de base ou Est-ce que tu ne souhaites pas participer financièrement à la SCOP ?
Effectivement, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de suivre le cheminement intime, je dirais, de chacune, c'est-à-dire comment chacun et chacune des salariés envisagent ce projet coopératif. Alors au début, il y a la peur, il y a petit à petit, elle commence à y croire. Une fois que les peurs ont été comme ça un peu sorties, on est, petit à petit, elle y croit, elle s'engage. Et puis il y a différentes péripéties qui font que du coup, elles sont obligées aussi de prendre position sur d'autres points. Et moi, ce qui était très important, c'était que chacune trouve sa manière de parler, avec certaines avec colère, d'autres avec humour, et que le tournage soit vraiment le lieu de leur expression. Donc, elles sont filmées pendant qu'elles travaillent. C'est pas, elles sont à l'aise. Elles trouvent chacune à leur façon. Au début, on les voit un peu comme dans un reportage. Elles répondent comme ça, un peu avec des phrases toutes faites. Puis, au fur et à mesure, ça jusqu'à la fin, où on peut le dire, elles se mettent à chanter. C'est vraiment chacune à sa façon de parler, son langage, et c'est ça qui était très important, quoi.
Mariana Otero, donc vous le dites, vous avez pris donc bien des dialogues, enfin vous avez eu un dialogue avec ces ouvrières, ou alors elles ont pris la parole devant la caméra. En revanche, en tant que réalisatrice, forcément, vous avez fait un montage. Il y a des personnes qu'on ne voit jamais parler. Alors on les voit à l'écran, hein, mais on ne les voit jamais parler. Est-ce que tout le monde a parlé librement devant votre caméra, ou est-ce que vous avez fait un montage avec quelques personnes ?
Moi, je suis restée 3 mois dans l'entreprise, donc j'ai filmé tous les jours. J'ai filmé en fonction de l'histoire, parce que j'avais visité beaucoup de coopératives, donc je connaissais à peu près. J'étais un petit peu en avance par rapport à ce qui allait se passer. C'est ça en documentaire, c'est que le scénario, on le connaît un petit peu malgré tout, hein, même s'il est totalement improvisé, on sait comment ça peut se passer. Donc j'y avais des scènes évidemment qui étaient importantes à filmer dans le cadre de cette histoire qui allait se dérouler. Mais après, j'ai surtout filmé avec les femmes qui avaient envie d'être filmées. Donc il y en a qu'on voit moins que d'autres parce qu'elles avaient moins envie ou elles n'avaient pas le même plaisir, le même sens du jeu, on va dire presque. Et donc celles que j'ai filmées, c'est surtout celles-là. Après au montage, j'en ai pas enlevé. On va dire que j'ai gardé celles qui étaient qui s'était engagé le plus dans ce tournage. Après, on les voit à peu près tous quand même, mais effectivement, certains moins que d'autres.
Je trouve qu'on a assez de galères avec tout ce qui se passe. Il n'y a pas de boulot nulle part. Et puis maintenant, pour savoir que notre boîte a tient, il faudrait que tout le monde investisse.
Il faut 4 poules et puis une fille.
Oh, les 4 poules, ça fera pas assez, ma pauvre fille.
Pas seulement l'argent, hein. Si ça marche pas, tu perds tout, quoi.
Je crois que c'est quand même beaucoup un film sur les femmes, hein, même si elles ont un rapport au pouvoir et à l'image d'ailleurs très différent. Je pense que c'est aussi à ça que tient la qualité du film, c'est qu'elles essaient pas de défendre une image particulière. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je me montre. Elles ont pas un pouvoir à défendre, donc elles sont totalement libres. Et effectivement, la féminité est là tout le temps. Enfin, il y a une forme de douceur tout en qui prévaut là, et c'est ça qui fait, je pense, effectivement la qualité du film aussi, quoi.
Et ça a été difficile de tourner dans l'entreprise, le patron apparaît jamais. Il a accepté que vous tourniez dans son entreprise, comment ça s'est passé ?
Alors oui, il a accepté parce qu'on ne peut pas tourner dans une entreprise si le patron n'est pas d'accord. Donc là, effectivement, il a donné son autorisation, ce qui est très rare, hein, parce que c'est un lieu très fermé où on ne peut pas filmer, ce qui est dommage parce que c'est pourtant là qu'on vit. C'est là qu'on passe la plupart de notre temps. Et donc là, il a accepté en disant, bon voilà, moi je veux bien que vous filmiez le projet coopératif, mais pas moi, puisque j'en fais pas partie. Et puis un jour, il a dit, finalement, je vais en faire partie. Donc là, les choses ont changé. J'ai demandé à filmer une scène très importante où il était. Il a accepté, mais il m'a jamais donné l'autorisation d'utiliser son image. Donc il a fallu trouver une solution. Et de toute façon, un documentaire, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des contraintes, mais à ces contraintes, il faut trouver une forme en réponse à ces contraintes. Et donc, c'est ce que j'ai fait, comme d'ailleurs à la fin du film, dont je ne révélerai pas la teneur.
Et vous, aujourd'hui, vous me demandez, alors qu'on ne sait pas si la SCOP va passer ou pas, de vous dire si on va continuer ensemble.
Mais il a besoin de diriger.
Quand tu diriges plus, ça va plus, quoi.
C'est bien ce qu'il a dit, je n'accepterai jamais d'être salarié.
Pour reparler de ce patron, c'est un formidable hors champ, finalement, qui n'était peut-être pas forcément prévu dans votre projet initial. Moi, c'est une impression que j'ai eue, c'est que c'est le prolétariat contre le patronat. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très très fort qui vient avec ce hors-champ.
Bah oui, du fait qu'on ne le voit pas, il est plus que sa fonction, quoi. Alors c'est vrai qu'au tout début du montage, je m'étais dit, bon, c'est quand même embêtant de ne pas avoir le contre-champ, parce que bon, un champ contre-champ aussi important, c'est... Et puis effectivement, en fait, dès que j'ai monté la scène, je me suis dit, non, mais ce qu'il dit, ça ne nous intéresse pas, c'est totalement anecdotique, ça n'a aucune... on n'a pas envie d'écouter. Et finalement, effectivement, comme vous dites, il est plus que sa fonction, et c'est beaucoup plus fort. Du coup, on l'imagine. Et puis il devient le patron, quoi, le dirigeant, dont Madame Nourrice, la déléguée du réseau, avait dit « attention, attention, il peut être dangereux ».
On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Hein.
Je crois que tout le monde est gentil, tout le monde est bon dans les affaires comme ça.
Si ça plaît pas à certaines personnes que j'ai pas mis dans la scope, et ben ça sera comme ça. Hein.
Alors, on a parlé du hors-champ du patron, mais il y a une espèce de suspense aussi, inévitable, parce que ces femmes doutent, elles savent pas au départ ce que c'est que la scope, et comme peut-être bon nombre de spectateurs. Donc on est avec vous, on a une empathie hein, pour tout ça, mais on se dit, est-ce qu'elles vont y arriver, est-ce que ça va marcher, est-ce que les cadres qui manipulent ça, vont pas les berner. Enfin voilà, il y a des doutes. Enfin, il y a vraiment une construction presque fictionnelle, j'ai l'impression. Hein.
On est complètement avec elle. Et alors, ce qui est très important justement dans le montage, mais c'était aussi au tournage, c'est-à-dire c'est de jamais changer de point de vue. C'est-à-dire que je me mets jamais du côté, par exemple, je me mets jamais du côté du patron. Je me mets jamais du côté de Cora. Je me mets jamais. Voilà, je reste avec elle. C'est-à-dire que le spectateur n'en sait pas plus qu'elle. Et du fait qu'on n'en sait pas plus qu'elle, que le spectateur n'en sait pas plus qu'elle, il a vraiment. On est vraiment avec elle. Et c'est, je pense, pour ça aussi qu'il y a, à la fois parce que le réel a une certaine forme de dramaturgie, mais aussi parce que dans la narration, je m'en tiens justement à ce point de vue-là et que je raconte l'histoire de leur point de vue. Il n'y a pas de voix off qui viendrait expliquer plus que ce qu'elles en savent ou qui viendrait faire en sorte que le spectateur serait en dehors. Donc c'est là qu'on quitte aussi tout ce qui est de l'information, tout ce qui ferait reportage et qu'on entre dans ce qui peut faire penser à de la fiction. Parce que la fiction, elle est construite comme ça, et le documentaire, moins souvent, il est construit comme ça. Mais voilà, c'est là, il est construit vraiment à ce niveau-là comme une fiction.
Il faut être dans le système.
Ben voilà, t'as raison, Sylvie.
J'aimerais revenir sur un personnage. Voilà, j'allais dire un personnage. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que comme il traverse le film, c'est le personnage de Sylvie, hein, c'est ça ? Mmh. Elle, on voit bien ses cheminements personnels, et notamment avec son mari, qui est agriculteur. Enfin, ça, vous avez dû jubiler, j'imagine, quand vous avez entendu ça. Parce que, je veux dire, elle ramenait quelque chose voilà. De la maison. Enfin, voilà. Enfin, il y avait aussi le rapport qu'elle a avec le mari, qui prend la décision. Elle se dit, c'est quand même un engagement. Je vais en parler à mon mari. Enfin, voilà. Il y avait...
C'est-à-dire que je savais, pour justement avoir rencontré des salariés avant qui après étaient devenus associés au sein d'une coopérative, que le questionnement passait souvent par la famille. C'est-à-dire que on peut pas prendre ses décisions tout seul, ça engage un mois de salaire, donc il faut quand même pour la femme prévenir son mari, le mari sa femme, parce que bon, il y a des privations quand même au bout du compte, et puis c'est un risque financier. Donc ça, cette présence, enfin l'avis de la famille est important. Donc effectivement, j'aurais pu choisir d'aller filmer dans les familles, mais là, avec le temps que j'avais, vu que je suis arrivée au tout début de l'histoire, j'avais pas le temps de les convaincre aussi dans les familles. Et puis je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant justement de les entendre en parler. Parce que là, c'est pareil, on imagine des choses et c'est toujours plus intéressant au cinéma d'imaginer parfois que de voir. Et donc, voilà, donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Sylvie qui parle de son mari très souvent. Et puis, il y a Jeanne Rose qui, elle, en parle d'une autre manière. Enfin, voilà, la famille est là, à travers leurs mots, hors champ, mais très présente. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose que je voulais absolument avoir parce que je savais que c'était fondamental dans leurs décisions.
C'était Mariana Otero, la réalisatrice de Entre nos mains, donc film documentaire qui est sorti la semaine dernière, qui sera encore projeté pendant 15 jours au cinéma Diagonale. J'espère que ça vous a donné envie d'aller le voir. En tout cas, moi, je vous l'ai conseillé la semaine dernière. Et comme j'avais été un peu long déjà la semaine dernière, je ne vais pas en rajouter. Et on va passer au film d'animation avec toi, Martin.
Oui, alors quelques mots rapides sur Moi, moche et méchant, qui est lui aussi sorti la semaine dernière. Alors, il s'agit de la première production du tout jeune studio Illumination Entertainment, fondé par Chris Meledandri, anciennement directeur du département animation de la Fox, qui a produit entre autres L'Âge de Glace 1 et 2, Robot et Horton. Alors, au début de Moi, moche et méchant, nous faisons la connaissance de Gru, un super vilain, un génie du mal, élu plusieurs fois plus grand méchant de l'année. Gru est un personnage antipathique et malfaisant qui adore persécuter ses contemporains et commettre des forfaits toujours plus ambitieux, jusqu'au jour où un autre vilain vole au nez et à la barbe du monde la pyramide de Khéops pour la mettre dans son jardin. Commence alors une lutte sans merci entre les deux affreux pour conserver le titre de plus grand méchant de tous les temps. Voilà, donc conçu à la base pour être un film qui adopterait le point de vue du méchant, à l'inverse de la plupart des films d'animation traditionnels, Despicable Me en anglais, donc Moi, moche et méchant, promettait de dynamiter un peu le genre en y injectant de la méchanceté gratuite, du cynisme et de l'humour noir. Malheureusement, c'était sans compter sur le risque que représente un tel projet aux yeux des financiers du cinéma. Imaginez-vous la scène dans un bureau d'un grand studio américain. Comment ça, un méchant? Ce serait mieux si c'était un gentil petit renard. Les enfants vont avoir peur, le film va se casser la gueule, on va perdre de l'argent. Voilà un dialogue que l'on entend très souvent à la Universal, à Warner ou à la Fox. Donc le film n'est donc pas aussi noir et aussi original que ce à quoi on pouvait s'attendre avec un tel point de départ. Gru n'est finalement pas aussi méchant qu'il n'y paraît et il va peu à peu se laisser attendrir par trois petites orphelines un peu frappadingues mais mignonnes à croquer. Donc malgré ce relatif excès de sentimentalisme, le premier long métrage de Pierre Coffin et Chris Renaud est une vraie réussite qui se déguste avec gourmandise. Notre bad guy reste un personnage qui sort un peu des sentiers battus et qui est surtout très bien entouré. En fait, pour accomplir ses projets démoniaques, Gru est entouré d'une armée de créatures jaunes et stupides, les mignons, qui sont les véritables vedettes du film. Donc sorte de cousins éloignés des lapins crétins d'Ubisoft, les mignons rivalisent de conneries tout au long de l'histoire et provoquent le rire sans devenir trop envahissant. Côté technique, nos deux réalisateurs, qui sont l'un français et l'autre américain, ont fait appel au studio MacGuff, un studio parisien, qui était déjà à l'œuvre sur le très beau Chasseur de dragons, sorti en 2008. Alors le résultat n'est pas aussi bluffant et poétique que le précédent travail du studio, mais nous sommes tout de même face à une animation très bien pensée, très bien réalisée. L'utilisation de la 3D est plutôt cohérente, et même si elle n'atteint pas des sommets d'originalité, on a quand même droit à quelques effets assez efficaces, comme cette séquence sur des montagnes russes qui renoue avec la tradition foraine du relief, ou encore ce concours idiot mais poilant pendant le générique de fin, au cours duquel les mignons tentent de repousser les limites du jaillissement 3D et de s'approcher au plus près des spectateurs. Voilà, donc une bonne surprise que ce moi moche et méchant, et qui devrait séduire petits et grands, donc malgré un scénario un peu faible, qui réserve quand même quelques surprises, quelques clins d'œil à la mythologie des vilains, des super-vilains, comme dans les films de super-héros ou les James Bond, toujours des héros machiavéliques comme ça qui ourdissent des complots. Et voilà, le film a aussi un côté très cartoon, avec une violence décomplexée, qui ravira sans doute les fans de Tex Avery.
Bah, ça donne envie en tout cas.
Voilà, donc moi moche et méchant, c'est projeté un peu partout en français avec la voix de Gad Elmaleh dans le rôle de Gru. Et
quand tu dis un peu partout, c'est quand même plutôt Gaumont,
Royal Gaumont,
oui. Ouais. Voilà, avec les lunettes 3D, donc pour ceux qui les détiennent.
Tout à fait, et on peut vous en prêter aussi au Royal, on m'a
pour
prêté.
Pour un supplément, évidemment.
Voilà. Donc avant de te laisser parler des événements de la semaine, je vous propose d'écouter un tout petit extrait de la bande originale du film, une chanson composée exprès pour le long métrage. I'm having a bad day, it's about time that I get my way, steamrolling whatever I see, oh, despicable me. I'm having a bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Why ask why, better yet, why not? Why are you marking X on that spot? Why use a blowtorch, isn't that hot? Why use a chainsaw, is that all you got? Why do you like seeing people in shock? But my question to you is why not? Why go to the bank and stand in line? Just use a freeze gun, it saves me time. I'm having a bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Oh, despicable me. I'm having a bad day. If you take it. Voilà un morceau qui déclenche la fureur dans les studios. Dessus, tout le monde est en train de bondir, de marcher. Comme
ils ont sorti la tequila, faut se dire voilà. N'importe quoi. On va parler donc des événements pour achever cette émission Cinérama. Beaucoup d'événements, hein, du coup, alors spécialement au Diagonal qu'on visite souvent. On commence demain, jeudi 14 octobre à 19h50 avec Madame Bovary de Claude Chabrol qui nous a quittés il y a peu. Donc effectivement, ça fait partie de ses nombreux films qu'il a fait avec une excellente Isabelle Huppert. Donc une séance unique à 19h50 demain. Ensuite, une avant-première qui aura lieu très tôt, ne sortez pas trop le samedi soir, parce que c'est à 11h le dimanche 17 octobre. C'est l'avant-première du dernier Bertrand Tavernier, qui mérite à mon avis le détour. Moi, j'adore ce réalisateur, La princesse de Montpensier. Donc c'est inspiré de la nouvelle éponyme de Madame de Lafayette. Ensuite, le lundi 18 octobre, une séance unique à 14h, c'est le caméraman de Buster Keaton, donc voilà un des monuments du cinéma muet. C'est dans le cadre de l'université du tiers-temps, hein. Ça a lieu tous les lundis, hein, c'est ça,
c'est
Martin
ça. Et je crois que c'est une fois sur quatre, c'est un classique du cinéma, donc là c'est le cas.
Voilà, pile poil. Hein. Voilà. Le lundi 18 octobre, encore, mais cette fois-ci à 19h50, c'est Food Inc., donc Food Incorporation, voilà, de Robert Kenner. Donc ça, c'est un film documentaire sur la grosse bouffe, voilà, et ce sera suivi forcément de animé voilà par le collectif alimentaire local, donc qui regroupe Artisans du Monde, le centre de documentation Tiers Monde, Ingénieurs sans frontières et ainsi de suite. Donc il sera question ensuite de débattre sur bien qu'est-ce que devient la bouffe à notre époque. Food Incorporation, un film de 2008, je crois. Voilà. C'est pas fini pour les événements et notamment pour les avant-premières avec le gros morceau quand même de la semaine prochaine, c'est Fin de concession de Pierre Karl qui sortira dans une semaine après. Et on aura la chance d'avoir Pierre Karl, mais qui quand même est montpelliérain, donc il n'a pas trop d'efforts à faire non plus. Et il y aura aussi Annie Gonzalez, la productrice, parce que c'est un film aussi qui a été fait avec quelques radis quand même, mais il faut savoir que Pierre Karl est interdit de télévision, donc on aime bien quand on fait un documentaire généralement avoir le préachat de la télé, et là c'est rarement possible avec Pierre Karl, sauf du côté des Belges de la RTBF ou de la TSR, Télévision Suisse Romande. Suisse, voilà. Mais en France, il y a une espèce de blackout. Il est sur la liste noire. Donc, c'est le dernier événement. Mardi 19 octobre, 21h15, je pense qu'il est prudent de prendre ses places auparavant et ne pas se pointer 5 minutes comme ça avant la séance, parce qu'il y aura énormément de monde, parce qu'il fait déjà parler de lui depuis bien 3 semaines.
Hein. Oui, à chaque fois qu'il y a des avant-premières ou des séances où il est là pour débattre avec le public, c'est souvent complet.
Et Pierre Karl a l'habitude de taper dur, et là je crois qu'il est... en même temps c'est un sujet un peu facile puisque c'est TF1, donc voilà. C'est comment finalement TF1 a eu une nouvelle fois sa concession, parce qu'effectivement on donne des concessions. TF1 ne devrait pas normalement forcément être géré par Bouygues, ça pourrait être géré par un autre groupe. À chaque fois on remet en jeu cette concession. Et Pierre Karl, qui n'aime vraiment pas TF1, qui se demande comment fonctionne la télévision et comment des groupes peuvent acquérir un groupe de télévision, fait un documentaire là-dessus. Cinérama s'achève doucement. Je ne sais pas ce que tu vas aller voir, toi, cette semaine.
Je ne sais pas encore. J'irai peut-être voir le remake de Morse, un film danois de vampire dont on avait parlé l'année dernière. Ouais, et les Américains ont fait un remake de ce film qui est sorti... mercredi dernier, je crois, et paraît-il qu'il est pas mal, donc j'irai le voir, et puis je ne sais pas, d'autres films, des surprises.
Bien, moi, c'est vrai que je vais plutôt aller voir des documentaires, donc je vous parlerai d'un excellent documentaire, mais qui sortira à la fin du mois d'octobre, mais j'irai bien voir, effectivement, Le Tavernier, dimanche matin, 11h, tranquillou. Voilà, donc parce que je pense que ça va être bon. J'irai sûrement pas voir le dernier Fincher de Social Network.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui sort.
C'est vrai que je me dis que Fincher, qui a fait Fight Club et Seven, mérite mieux, non ? Enfin, que ce sujet-là. Enfin, voilà. Cinérama s'achève. À noter aussi sur vos agendas ou bien calé dans votre mémoire que Cinérama va changer d'horaire à partir de la semaine prochaine, puisqu'il y a une nouvelle grille qui va être mise en place sur Divergence jusqu'au 31 décembre minuit. Et donc, Cinérama sera en direct le mercredi de 12h30 à 13h avec une rediffusion le même jour de 18h30 à 19h. À la fin de ce générique, on écoutera un extrait du film de Chabrol, donc qui sera projeté demain au Diagonal. C'est Madame Bovary. Merci Martin.
Merci Vincent. Au revoir.
Et j'allais l'oublier, ça fait du bien d'avoir un technicien aujourd'hui. Merci Bruno.
Merci Bruno.
Avec des incrustations d'écailles, ni des breloques pour sa montre. Rien ne te manque. Tu as un château, des fermes, des bois. Tu chasses à court, tu voyages à Paris. Mais rien que cela, la moindre de ces niaiseries, on peut en faire de l'argent. J'en veux pas, garde-les. Mais moi, je t'aurais tout donné, j'aurais tout vendu, j'aurais travaillé de mes mains, j'aurais mendié sur les routes pour un sourire de toi, pour t'entendre dire merci. Mais sais-tu que sans toi, j'aurais pu vivre heureuse? Qui t'y forçait? Pourtant, tu me l'as dit ici même, tu me l'as dit que tu m'aimais. Il aurait mieux valu me chasser. J'ai les mains chaudes de tes baisers. À genoux, tu m'as juré une éternité d'amour. Tu m'as traîné dans des rêves pendant 2 ans. Et ta lettre qui m'a déchiré le cœur. Et quand je viens vers lui, qui est riche, heureux, libre, pour implorer un secours que le premier venu rendrait.
Cinérama.
Suppliante, lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse parce que ça lui coûterait 3000 francs.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.